الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاءً ومغفرة الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité de reprendre l'étude des paroles de son prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce cadeau que notre prophète alayhi salat wa sallam nous a laissé, les hadiths qui caractérisent cette ummah, que avec le Coran, le livre d'Allah, nous avons les paroles, les actions, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont été transmises par les sahaba, par des chaînes de narration authentiques, vérifiées, certifiées, et qui nous permet de bénéficier en 2009 des conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remontent à plus de 15 siècles. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, on dirait même que c'est quelque chose d'unique. Aucune religion avant l'islam n'avait eu la chance d'avoir l'intégralité des paroles, des approbations, des actes de leur prophète pour pouvoir les mettre en pratique. Ni la communauté de Moussa alayhi salam que sont les Yahoud, ni la communauté de Isa alayhi salam que sont les Nasara. Et nous avons commencé il y a pas mal de temps, quelques mois, l'étude d'un recueil très connu qui s'appelle Riyad al-Salihin, que tout le monde connaît. Je pense que la plupart des musulmans, ils ont une copie de Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, à la maison. Ce compilé de hadiths rassemble des centaines de hadiths sur différents chapitres. Et ce que nous avions commencé il y a quelques mois, c'était le chapitre sur la sincérité que nous avons complété par la grâce d'Allah. Nous avons ensuite enchaîné avec le chapitre sur At-Tawba, sur le repentir, la demande de pardon à Allah Ta'ala. Et nous avons commencé, il y a pas mal de temps, un chapitre très long, c'est Bab al-Sabr, le chapitre concernant la patience. Nous avons vu jusqu'à maintenant les hadiths qui expliquent comment le musulman se doit d'être patient face aux épreuves qu'Allah Azza wa Jal envoie. Et que le musulman doit comprendre que lorsqu'il vit une situation difficile, que ce soit en rapport avec sa santé et sa famille, c'est bien ou autre chose, il ne doit pas voir cela comme une calamité. Celui qui n'a pas la foi de son cœur, quand il lui arrive quelque chose, il va dire « je n'ai pas de chance ». Il va dire « j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment ». Il va dire « c'est une calamité ». Alors, il va dire que je me suis levé du pied gauche. Ou ce genre de bêtises pour justifier une calamité ou quelque chose qui l'a touché. Parce que cette personne, il ne croit pas en la divinité, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas surtout au taqdir. Il ne croit pas au destin. C'est-à-dire que nous avons la foi dans notre cœur et nous savons que premièrement, rien n'arrive sans le ilm d'Allah, sans la connaissance d'Allah. Rien ne se produit sans l'autorisation d'Allah et rien ne se produit sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un ayat du Coran dans ce sens. Il est dit que ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille morte qui tombe, il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans qu'Allah Ta'ala ne connaisse, sans qu'Allah Ta'ala ne l'a déjà décrété. Ça, c'est ce que s'appelle le taqdir. Et quand nous enseignons aux enfants le kalima, wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah Ta'ala, mais ça c'est très profond, que ces enfants comprennent que tout ce qui arrive, que ce soit quelque chose que nous voyons comme bien ou quelque chose que nous jugeons mauvais, tout ça, ça vient de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et avec le musulman, Allah Ta'ala agit toujours avec hikmat, avec une sagesse. Tout ce qu'Allah Ta'ala fait ou accorde au musulman, il y a toujours un bien pour ce musulman. Alors le hadith qu'on va voir aujourd'hui, c'est le 9e hadith du chapitre de la patience. Hadith de Ata ibn Abi Rabah, قال لي ibn Abbas radiallahu anhuma. Ata dit que ibn Abbas radiallahu anhuma m'a raconté. Ala ulika imra'atan min ahli al-jannah. Veux-tu que je te montre une femme qui fait partie des femmes du paradis? Faqultu bala, c'est-à-dire une femme qui est encore vivante. Quelqu'un, justement, quelqu'un de l'assemblée, par exemple, c'est quelqu'un qui, le prophète a dit que cette personne ira dans le paradis. Qultu bala, dit bien sûr, montre-moi. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal. Elle a montré une femme qui était de couleur noire, qui habitait donc à Madina Munawwara, dit cette femme. Elle fait partie, quand elle va mourir, elle accédera au paradis. Le prophète l'a promis. Et là, il va expliquer pourquoi. Qu'est-ce que cette femme a fait et pourquoi dans le hadith est précisé que c'est une femme noire, pour qu'on comprenne que ce n'est pas une Quraysh, que ce n'est pas la famille du prophète. Ce n'est pas des grandes tribus des Arabes. Non, c'est quelqu'un qui habite dans la ville, qui est respecté de tous, mais qui n'a pas une haute nasab. C'est quelqu'un qui ne descend pas d'une grande famille. C'est-à-dire que ce Jannat, il est accessible à tout le monde. Il n'a pas besoin d'être blanc, il n'a pas besoin d'avoir des cheveux blonds, d'avoir les yeux bleus, d'avoir tel grade à la société, d'avoir tel diplôme, d'être descendant de telle famille, d'avoir telle couleur de passeport pour accéder au paradis. Tout ça, c'est le izzat, c'est l'honneur de la dunya. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une seule chose qui compte, mes chers frères. C'est la foi que nous avons dans notre cœur. C'est l'amour que nous avons pour Allah. C'est l'amour que nous avons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la crainte d'Allah qui habite nos cœurs, qui nous empêche de faire les péchés. Si nous mourons avec cet amour pour Allah, cet amour pour son prophète, cette crainte d'Allah qui nous a permis dans ce monde de vivre éloigné des péchés, alors nous sommes les grands vainqueurs de cette vie, de ce dunya. Même si dans ce monde, nous étions inscrits à l'INPE, même si dans ce monde, nous étions rejetés des gens, si nous n'avions aucune importance aux yeux des gens, on n'avait même pas un compte en banque, on n'avait même pas d'argent. Tout ça, c'est sans intérêt. Si dans notre cœur, nous avons la foi requise, comme les sahaba, ou presque, nous prenons comme modèle les sahaba, et nous n'allons pas prendre comme modèle les acteurs, les footballeurs, les artistes, ou je ne sais quoi, alors assurément, nous sommes les grands vainqueurs, quelle que soit notre condition, notre couleur, nos origines, notre situation dans ce monde. Donc, Atta ibn Abbas va expliquer à Atta pourquoi cette femme, elle fait partie des femmes qui accéderont au paradis. Il dit que أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. Il va voir le prophète صلى الله عليه وسلم, elle était voir le prophète une fois, elle a dit au prophète d'Allah, je suis malade, il m'arrive parfois d'avoir des crises, et lorsque j'ai des crises, je suis inconsciente, et il m'arrive même de me découvrir, hein, que mes vêtements découvrent mon corps. Ô prophète d'Allah, demande à Allah de me donner la santé. قال Inshi, déjà on voit cette femme, elle dit au prophète d'Allah, demande à Allah de me donner la santé, alors que le prophète est là. On comprend bien qu'il n'y a pas un être humain qui peut donner la santé ou la maladie à quelqu'un. Hein, il ne faut pas qu'on croie, même si quelqu'un de pieux, un fundi, un mufti, va dire que ben, lui, il peut m'apporter. Ah, Allah. Celui qui donne la maladie, c'est Allah. Celui qui donne la santé, c'est Allah. Celui qui donne la richesse, la pauvreté, l'honneur, les déshonneurs, qui envoie les situations, qui règle les situations, c'est uniquement Allah. Nos cœurs doivent être orientés vers Allah. Et nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour arriver vers Allah. Il ne faut pas croire que si je suis avec telle personne ou tel alim, tel grand personnage, là il va faire mon cheminement vers Allah. Non, jamais de la vie. Quelqu'un peut vous donner des conseils. Un alim peut vous expliquer le halal, le haram. Un homme pieux qui a la sagesse, il peut vous donner des conseils. Mais de là à dire que mon accès au paradis dépend de telle personne, na'ouzou billah. Les sahaba, ils ont pris qui comme personne pour les faire accéder au paradis? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bas, c'est notre modèle. Nous avons le Coran, nous avons les hadiths, nous avons l'explication des hadiths, nous avons nos a'imma, qu'on soit Hanafi ou Shafi'i ou Malik ou Ahambali, l'imam Ahmad, nous avons une ligne de conduite. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est mashrou', qu'est-ce qu'il y a dans notre dîn, qu'est-ce qui est sunnah et qu'est-ce qui n'est pas sunnah ou délaisse. Tout ce qui est bid'a, tout ce qui est innovation, tout ce qui a été rajouté, ça on n'en a pas besoin. Parce que notre paradis est assuré si nous avons su rester fermes sur ce Coran et sur les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est deux cadeaux qu'aucune communauté n'avait eu. Tout à l'heure, on avait dit les hadiths. Mais les Nasara, le Injil, c'était leur responsable religieux qui avait eu la responsabilité de conserver les textes. Mais ils ont triché. La Taurat, la Torah, c'était les responsables de leur religion qui étaient chargés de conserver les textes sacrés. Mais là aussi, ils n'ont pas tenu leur engagement. Tandis que pour le Coran, Allah a promis que c'est lui qui le protège. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun. Allah il a dit, c'est nous qui faisons descendre le Coran. En ce sens, le Coran, et c'est nous qui le protégeons. C'est-à-dire, le Coran que nous lisons, c'est le même descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths que nous lisons par le travail des ulama, des muhaddithin, c'est exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait. Ça, c'est un trésor, ça, mes chers frères. Et celui qui quitte ce trésor pour aller écouter Fulan ou Fulan ou Fulan, c'est quelqu'un qui délaisse quelque chose qui est spécifique à notre dîn, mes chers frères. Alors, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la suite du hadith, parce qu'il est arrivé, le prophète dit, in shi'ti sabarti, walakil jannah, dit, oh, il s'adresse à cette femme, si tu fais preuve de patience, si tu acceptes cette difficulté, cette maladie, alors Allah t'accorde le paradis. Wa in shi'ti da'autu Allah ta'ala an yu'afiki, mais si tu le souhaites, je demande à Allah Azza wa Jal de te donner la santé. Et là, le poisson n'a rien dit de plus. Premier cas de figure, tu patientes. Le hadith explique que si tu patientes et tu acceptes cette épreuve de la part d'Allah, alors Allah il te donne le paradis en échange de la difficulté. Mais si tu veux, je fais doua. Et Allah il enlève tout de suite cette... Si ce poisson il lève les mains, Allah il accepte. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, s'il lève les mains, Allah l'accepte tout de suite. Taïb, il dit si je demande doua, Allah accepte, tu auras la santé. Bas. Et Allah te donne la santé. Mais il n'a pas promis le paradis en échange. Et regardez les sahaba. Regardez, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les sahaba, ils étaient tous intelligents. Jeunes, vieux, hommes, femmes. Ils avaient tous la compréhension, la lumière du cœur. Ils savaient qu'est-ce qui est profitable et qu'est-ce qui est sans intérêt. Comme ce sahaba qui, on pense ça, m'a dit que, voilà, là, il y avait une maraka, hein, il y avait une bataille. Il dit qu'il y a des gens qui sont en train d'accéder au paradis. Et un sahaba qui avait une branche de date dans sa main, il est en train de manger. Il dit que je suis en train de payer mon temps avec ces dates, il est parti dans le chemin d'Allah pour accéder au shahad. Sahaba, ils comprennent, ils ont compris comment, ils ont compris c'est où le succès. Quel est le rapport entre le dunya et le akhirah? Nous, on n'a pas compris. Nous, on a compris que si j'ai tout de ce dunya, si j'ai les meilleurs diplômes, j'ai le meilleur travail, j'ai le plus gros des salaires, j'ai la plus belle des voitures, je suis un homme heureux. Il faut que les gens me respectent. Il faut que quand les gens me regardent, ils disent ça, c'est quelqu'un qui a réussi. Et on croit qu'on a réussi partout là, wallah. Même si on n'a rien, mes chers frères, comme on a dit tout à l'heure, si nous avons la foi, l'iman dans notre cœur, nous avons les actions dans notre vie, là nous sommes les grands vainqueurs de cette épreuve, de ce dunya. Alors cette femme, elle dit, elle souffre. Elle est souffrante, cette femme. Mais lorsque le prophète lui fait comprendre, soit le jannat assuré, mais à condition d'être patient, ou alors, Allah, il t'enlève cette difficulté, basse. Elle a dit immédiatement, bal asbir, faqalat asbiru, dit au prophète d'Allah, je vais patienter. Elle sait que je vais vivre encore combien de temps? 5 ans? 10 ans? 20 ans? 30 ans? Je vais souffrir pendant 30 ans? Mais si après je suis sûr que quand je ferme les yeux, je vais dans le jannat. Mais qu'est-ce qu'un être humain peut espérer de mieux? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Celui qui a réussi, mes chers frères, al-fawz, le succès, c'est pas celui qui a cumulé bien, honneur, famille, diplôme. Celui qui a su s'éloigner, se protéger de l'enfer et qui a su accéder au paradis. Khalas, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Celui qui sait qu'il entre dans le paradis, c'est l'homme le plus heureux. Cette femme, elle dit, je vais patienter et j'accède au paradis. Et là, elle a dit une dernière chose. Au prophète d'Allah, il reste quelque chose. Inni atakashaf, fad'u Allah alla atakashaf, fad'a laha muttafaqun alayh. C'est-à-dire, rawahu al-Bukhari et Muslim. Elle dit au prophète d'Allah, je patiente, mais le problème, c'est que lorsque je fais des crises, comme on a dit tout à l'heure, il m'arrive de me découvrir. Au prophète d'Allah, demande à Allah de faire en sorte que lorsque j'ai ce problème, mon corps reste couvert. Elle a fikar pour sa pudeur. Et le prophète sallam a demandé doua à Allah pour elle. Et Allah a accepté ce doua. Alors, en commentaire, il dit que cette femme, elle a eu la promesse du paradis. Il y a deux catégories de personnes qui ont la promesse du paradis. Tout d'abord, une catégorie beaucoup plus générale, qui englobe chaque personne qui a la foi de son cœur, qui accomplit les bonnes actions. Wa'iddat lil muttaqin, le paradis est réservé pour les muttaqin, c'est-à-dire ceux qui ont dans leur cœur la crainte d'Allah. Dans d'autres versets, innalladhina amanu, ceux qui ont la foi. Wa'amilu salihat, et qui accomplissent les bonnes actions. La yaqwas ulaika hum khairul bariyya, jazahum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Leur récompense auprès d'Allah, c'est le paradis avec toutes les descriptions qu'il y a du paradis. Donc n'importe quel musulman qui a la foi, qui accomplit les bonnes actions et qui s'éloigne des péchés, trois choses. Iman, a'mal ou saliha, bonnes actions, et rester éloigné du haram. Parce que si je fais des bonnes actions, là, je fais namaz, j'écoute un programme, arrivé chez moi, je vais boire une bière, je vais sortir, je vais voir des filles, aller en boîte et tout, et je reviens fajr. J'ai avancé de 3 pas, et j'ai reculé de 5 pas. Mais au bout de 30 ans, 40 ans, vous croyez que vous êtes loin, mais non! Autant que vous avancez, autant vous reculez. Voyez, donc, trois choses. La foi en Allah, les bonnes actions et l'éloignement de tout ce qui provoque là, la colère d'Allah. Là, on devient muttaqi. Là, on a la promesse du paradis. Maintenant, c'est un masla que beaucoup de gens ne connaissent pas. On a le droit de dire que celui qui a ces qualités, il entre au paradis. Maintenant, il n'est pas bien de dire qu'une personne qui est morte, par exemple, hein, le frère, il meurt, c'est quelqu'un de pieux et tout, dit que, je ne sais pas, Ismaïl, dit Ismaïl est dans le jannat, ça. Ça, c'est un jannati, ça. Souvent, la réunion dit ça, dit, ah, Bougla, c'est un bon monde, ça. Ça, les jannati, direct. Ça, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. De même que Quelqu'un, il est pécheur, il boit, il fume un mal, il, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme péché. Quand il meurt, ça, dernier, ça, c'est direct dans le Jahannam. Ça aussi, on n'a pas le droit de dire. Le Jannat et le Jahannam, ce n'est pas notre papa, ça. Ça ne nous appartient pas, ça. Il n'y a pas besoin de droit de propriété pour y accéder. C'est Allah qui décide, en fonction des conditions qu'on a dit. Et puis, Allah, il est libre de faire ce qu'il veut. Et pour deux raisons. Les muhadithins nous expliquent que pour deux raisons, on n'a pas le droit de dire, précisément en montrant ce mayat, Ismaël est dans le paradis, ça, direct. Ou Ishaq, ça, c'était un pécheur direct de Jahan. On n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Premièrement, on ne sait pas comment la personne est décédée. Par exemple, on dit Al-A'mal ou Bil-Khawatim. C'est les dernières actions qui peuvent être décisives. D'accord? Je ne sais pas, vous faites. L'exemple est décalé, hein, mais pour que les jeunes comprennent. Vous faites un match de football, c'est match 0-0 jusqu'à 89e minute. Donc les deux équipes ont des forces égales. Dites bon, ça, match est fini, ça. Jusqu'à 89e, vous n'avez pas le droit de dire, vous ne savez pas. Si dernière minute marque un but, c'est fini, tout bascule. Pareil, l'exemple est un peu éloigné, mais comprenons que si une personne, il est possible qu'une personne a passé une vie dans le péché, mais avant de mourir, elle a fait une action qui a tellement plu, qui a tellement contenté Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala décide de l'accorder le paradis. Allah ta'ala décide de l'accorder le paradis pour une action qui sort de son cœur avec sincérité. Allah est capable de cela. Ça fait plaisir d'entendre. Mais l'autre cas de figure aussi existe. Allah nous protège. Quelqu'un peut passer une vie dans la masjid, dans les bonnes actions. Avant de mourir, il fait quelque chose de tellement détestable qui déplaît Allah. Allah peut décider que la personne va vers l'enfer. Ça, c'est tout à fait possible, comme les hadiths se prouvent. C'est pour ça que le musulman, dans chaque alhamdou, dans la salat, qu'est-ce qu'on lit? Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. En commentaire, Ibn Kathir et Mufassin disent que pourquoi est-ce qu'un musulman demande à Allah de le guider vers le droit chemin? Parce que par opposition au droit chemin, il y a al-maghdoub alayhim wa al-dallin, les autres populations qui se sont égarées. Il dit parce qu'on demande à Allah al-sabat wa al-istiqama. Oh Allah, garde-nous dans le droit chemin. Personne ne sait ce qui peut se passer demain. C'est pour ça que quel que soit le degré d'épreuve qu'on peut avoir, on peut être malade, on peut avoir des problèmes de finances, la famille, madame, les enfants, quels que soient les problèmes, elle dit que tant, le hadith explique, tant que l'épreuve ne touche pas le din, c'est pas grave. Tant que l'épreuve ne touche pas votre iman, votre foi, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui commence à avoir des doutes sur sa religion. Et peu à peu, il commence à perdre son din. Cette personne, non seulement de ce dunya, elle a tout perdu, mais de l'akhirat, cette personne a tout perdu. Ça, c'est la pire des choses. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous protéger des fitnas, de le dîner de la foi. Deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que lui, il est dans le paradis ou autre chose, on ne sait pas est-ce que l'intérieur du cœur est comme l'apparence extérieure. Je peux m'habiller comme ça, avec de beaux vêtements, la barbe, il y a tout ce qu'il faut, le turban, tout, mashallah, mais dedans, c'est sale. Je suis un homme jaloux. Je suis un homme hypocrite. Chez moi, à la maison, je frappe ma femme. Chez moi, à la maison, je frappe mes enfants sans raison. Je suis un tyran chez moi. Avec mes voisins, je suis la pire des personnes. Dans mon travail, je vole les heures de travail. Avec mes employés, je triche. Je ne donne pas le droit, je ne rembourse pas mes dettes, etc., etc. Même si Zohar Hassan Maghrib Isha, je suis au premier saf, même si j'ai une barbe d'1m50, si l'extérieur est magnifique, mais l'intérieur est mauvais, ça ne nous apporte strictement rien. Juste le premier péché que j'ai cité, si dans mon cœur je suis rempli de jalousie, c'est fini. Parce que le prophète m'a dit que la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Je fais beaucoup de tawab, beaucoup de hasanat. Dans mon cœur, je suis un homme jaloux. Quand quelqu'un a quelque chose, je suis envieux et je veux le mal pour les gens. C'est fini pour moi. Parce que ça prouve que je n'ai pas la foi sur le destin. Sur le taqsim, c'est ce qu'Allah Ta'ala a accordé à chacune de ses créatures. Donc, pour ces deux raisons, on ne sait pas comment la personne meurt. Avec quelles paroles, avec quelles actions. Et deux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. On ne juge pas quelqu'un sur son extérieur. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Mais dans ce cas, on peut se dire que pour chaque musulman, le paradis est promis. Maintenant, il se peut que ce musulman y accède directement. Dès quand le jour de Qiyamah, il rentre le Jannah, comme on appelle Bireir et Hisab, sans Hisab, Allahumma ja'alna minhum. Il est possible également que la personne rentre après beaucoup d'attentes. Elle doit passer devant le tribunal d'Allah et répondre, tel namaz tu n'as pas fait, tel somme tu n'as pas fait ou tel péché tu as fait. Donc il faudra attendre les comptes, tout comme il est possible et qu'Allah le pardonne aussi le jour de Qiyamah. Mais il faut attendre. Et quand on dit attendre là-haut, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, pas 2 heures de temps. Hein. Ce n'est pas comme on dit on est Korah, carrefour, on attend la caisse. Non, c'est par centaines d'années. La Sourate Al-Afiyah. Et troisième cas de figure, il est possible que ce musulman entre au paradis, mais après être passé dans le Jahannam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a fait des péchés, il a fait tel guna que Allah ne l'a pas pardonné. Et il n'a pas demandé le pardon sincèrement. Ce qui fait qu'il faut qu'il passe dans le Jahannam pour se purifier. Et ça, c'est la justice d'Allah. Et ensuite, cette personne accède au paradis. Comme le hadith, il dit que à la fin, il va voir les derniers musulmans qui restent dans le Jahannam. Il va demander shafa'a, intercession pour eux. Il dit que c'est des gens qui quittent le Jahannam et ils sont brûlés. Waqadim tuhishu. Ils sont brûlés par le Jahannam. Et là, ils vont entrer dans le paradis, ils vont se baigner dans un fleuve du paradis en se disant, et là, ils vont retrouver toute leur beauté. Mais c'est des gens qui ont déjà passé 100 000, 2 000, 10 000, 100 000 années, Allahu A'lam, mais des années dans le Jahannam. Et ensuite, il accède au paradis. Right? Mais de là à dire que telle personne est dans le paradis ou de l'enfer, ça, nous ne pouvons pas le dire, ça c'est Allah seul qui connaît, c'est Allah seul qui décède. Voyez. Également, l'autre catégorie, ce sont les sahaba qui ont eu la bonne nouvelle du paradis, comme l'appelle les ashar al-mubashara bil jannah. Hein? Si là, de but en blanc, on demande à un jeune, dis-moi les 10 sahaba qui ont eu la bonne nouvelle du paradis, c'est qui? Connais ou connais pas? Connais pas. Dis-moi, France-Autriche, quelle est l'équipe alignée? À la tourne, direct. Je dis, il y a Benzema devant, il y a Anelka là, il y a Toulalan là, il y a, je sais pas, Toulalan, tout encore, je sais pas quoi, il y a telle personne en défense. On ne connaît pas encore. Ça doit nous interpeller. Pourquoi est-ce que nous sommes capables de citer l'équipe de France 2009, 2008, 98, la gagne à Coupe du Monde, 2000, la gagne à Coupe d'Europe, etc., etc. Mais si on demande à un enfant, dis-moi, quels sont les 10 compagnons à qui le Prophète a donné la promesse du paradis? On ne connaît pas. Il y a les 4 Khulafa Rashidin, Saad et Saïd, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida, Amr ibn Jarrah, Talha et Zubair. Ça nous fait comprendre que nos enfants n'ont pas la connaissance et l'amour pour le dîn. Je ne parle pas de l'accomplissement des actes d'adoration. Ils font namaz, ils font saum, etc. Ça, c'est pas... Ils lisent le Coran, très bien peut-être, mais je parle de la culture islamique. Que mes enfants comprennent que si je veux avoir le succès, je dois regarder comment Abu Bakr vivait. Si je veux avoir le succès, je dois regarder comment Omar ibn al-Khattab a mené sa vie. Je dois regarder comment Moussa ibn Umar a fait dans sa jeunesse. Je dois regarder comment Ali ibn Abi Talib vivait dans sa jeunesse. Et non pas regarder tel footballeur, tel chanteur, tel je ne sais quoi, comment il vit là, Wallah. Que dans mon cœur, que dans le cœur de mes enfants, il y a Allah, son prophète, il y a l'Iqtida, le modèle des Sahaba, et non pas le modèle du dunya. Si cet enfant, on a su l'inculquer ça dans son cœur, je peux être tranquille, moi, en tant que papa. Parce que s'il a compris, c'est quoi le haq, c'est quoi le vrai, c'est quoi le batil, qu'est-ce qui est éphémère, qui fait juste parade, ça fait, c'est beau, 2, 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans, et puis personne n'en parle plus. Il a compris ce qui le fera accéder au paradis réellement. Alors cet enfant-là, hein, même s'il ne lit pas le Coran parfaitement, même s'il ne devient pas hafiz al-Quran, même s'il ne deviendra pas fundi ou alim ou mufti ou autre chose, mais cet enfant, si son cœur est rempli d'amour et de crainte d'Allah, je peux être tranquille. Il peut vivre à La Réunion, il ne succombera pas au péché. Il peut vivre à New York, il peut vivre à Miami, il peut vivre en France, il peut vivre, je ne sais pas dans quel pays où il y a des péchés, où il y a le zina. Cet enfant-là, adolescent ou jeune, quel que soit son âge, il sera protégé. Parce qu'il a les bonnes bases de son cœur. On peut y aller, qu'Allah donne tawfiq, franchement. Et ça, là, hein, c'est pas les moulissas qui vont le donner aux enfants. Nous, on est là, hein, madressa, hein, on a 4h30 jusqu'à 6h, 1h, 1h30. On va gérer 30 élèves. 30 élèves, ils ont 30 sabbats différents. C'est la grande distribution, ça. C'est comme Zia Leader Prince, hein, c'est rapide, rapide. Chaque élève a 2 minutes, pas plus. On accorde 120 secondes par élève. Il arrive, il récite, vous connaissez. Les bons, vous ne connaissez pas, on va prendre vous demain, et dans le sabbat, dégage. Le prochain. Ben, on est obligé. Si on donne du temps à tout le monde, ben, on a fait lire 10 élèves. Et il y a 20 qui n'ont pas eu sabbat. Comprenez que ne comptons pas, ne comptez pas sur le fundi, sur le moulissab pour faire de votre enfant un homme pieux. Là, wallah, jamais de la vie. Et surtout, ne vous dites pas que moi, à la maison, je rentre du travail, je vais m'asseoir, manger, regarder la télé, boire mon coca devant un match de football. L'enfant, il rentre, il fait ses devoirs, il dort, il repart demain. De toute façon, son dîn, c'est moulissab qui le donne. Là, wallah, jamais. Ne pensez pas que les enseignants de la médiassa peuvent se substituer au rôle du papa ou de la maman. La tarbiya, l'éducation de nos enfants, c'est nous qui le faisons. C'est le papa, c'est la maman. Par les discours, par l'exemple, le modèle qu'on donne et par les limites qu'on va fixer à cet enfant. Tout ce qu'il va apprendre à la madrasa, ça c'est du bonus. S'il lit bien, il lit moins bien, dans les deux cas, il sera récompensé. Hadith Fassam, il dit, celui qui lit et qui a difficulté pour lire, il est doublement récompensé. Parce que de un, il a difficulté, et si je ne me trompe pas le terme du hadith, et de deux, il a lu. Et celui qui a bien lu, alhamdoulilah, tant mieux pour lui, il a son tawab. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon enfant, il est premier de la classe madrasa, qu'il sera le premier de la classe de son iman, et qu'il sera le premier musulman de Saint-Nilah, wallah. Deux choses complètement différentes. Mon enfant peut connaître tous les maslahs de musafir, de saum, de qada, de je ne sais quoi, de zakat, de miras, mais son iman n'est pas correct. Et que quand il va dans la rue avec ses amis, il devient shaitan. C'est tout à fait possible. Parce que l'éducation, c'est le papa et c'est la maman qui doit transmettre aux enfants. Qu'Allah nous accepte, il faut donner cette éducation correcte et globale à nos enfants. Et donc, il y a d'autres sahaba, il y a Bilal par exemple. Et regardez Bilal, le prophète, il dit, oh Bilal, j'ai vu, j'ai entendu, j'étais dans mon rêve, j'ai entendu tes pas dans le paradis. Qu'est-ce que tu fais, oh Bilal, pour que j'entende Bilal marcher dans le Jannat, subhanallah. Et en commentaire, le muhadithin dit, regardez Bilal, ça on l'a déjà dit, on le répète, on le répétera jusqu'à la fin. Parce que beaucoup veulent nous donner des leçons. Beaucoup veulent donner aux musulmans des leçons en termes de droit, en termes d'humanisme, en termes de valeurs humaines. Sachez que l'abolition de l'esclavage date d'un siècle ou pas trop longtemps. Vous voyez, la reconnaissance de l'homme noir, l'égalité du noir par rapport au blanc, il y a dans certains pays, c'est pas acquis, et où c'est acquis, ça date de 20 ou 25 ans ou de 30 ans. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Makkatul Mukarrama, en l'an 6 de l'Hégire, lorsqu'il donne, on a déjà expliqué ça, à Bilal ibn Rabah, l'honneur de monter sur la Kaaba pour donner l'azan, c'est un signe. Il l'avait déjà expliqué, mais tout le monde comprend bien que ce n'est ni la couleur ni l'argent qui peut élever quelqu'un, c'est son iman. Lorsqu'il y avait tous les sahaba qui sont là, et le prophète dit, oh Bilal, c'est toi qui vas donner ce premier azan de l'histoire de l'islam à Mecca après l'an 7, un an après le sulh de Hudaybiyah. Et Bilal, c'est un homme de couleur noire, c'est un descendant d'esclaves qui a été affranchi par Abu Bakr. C'est-à-dire, il n'est pas Quraysh, il n'a pas le nasab, il est pauvre. Mais dans son cœur, il y a quoi? L'amour pour Allah et son prophète. On n'avait pas besoin d'attendre l'Occident pour nous faire comprendre que le blanc et le noir sont égaux, que c'est seule la piété qui distingue. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabi ala ajami. L'arabe, le non-arabe, le blanc, le noir n'a aucune différence auprès d'Allah. Illa bi taqwa. Uniquement par la taqwa, par la crainte d'Allah que nous avons dans nos cœurs. Hada. Donc nous comprenons à travers ce hadith que la maladie qui peut toucher une personne peut apporter trois choses à cette personne. Un, raf'u daraja. Le degré, le grade de cette personne augmente. Deuxièmement, les péchés sont effacés. Et troisièmement, Allah peut le faire accéder au paradis. Ça c'est pour qui? C'est pour la personne qui a compris qu'Allah m'éprouve et qu'Allah attend quelque chose de moi et je fais preuve de patience. Je ne vais pas me plaindre et j'accepte cela de la part d'Allah en demandant droit à Allah de me donner la santé. Mais tant que je suis éprouvé, je fais preuve de patience. Comme une personne, si on voit un homme qui meurt, après un homme, un musulman, il meurt, il a fait un an, deux ans de maladie à l'hôpital, hein, c'est pas une calamité ça. C'est qu'Allah a voulu que cette personne, avant qu'elle quitte ce dunya, ses péchés soient lavés, au moins lorsqu'elle retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben elle retourne avec le livret de compte propre. Et dernier point, on va terminer avec ça. Ah oui, on a 30 minutes, on a dépassé beaucoup le temps. Regardez cette femme à la fin, elle dit au prophète d'Allah, quand je suis malade, quand je tombe, je me découvre. Les mahadisi, regardez la pudeur de ces femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul fika, le seul souci qui reste à cette femme, c'est quoi? C'est lorsque je tombe, sans connaissance, je me découvre. Et je ne veux pas que les gens voient mon aura, mon satar, que les gens voient mes jambes ou autre chose. Ça, c'est le souci de cette femme. De nos jours, les femmes se découvrent avec fierté. Une femme qui va mettre là une petite jupe, là, les bras dehors, un décolleté ou autre chose, elle se croit être une femme libre. Pour elle, je suis une femme du 21e siècle. Je suis quelqu'un d'éduqué, de civilisé. Comme si que celle qui se couvre correctement, c'est quelqu'un qui habite à une autre époque, c'est quelqu'un qui a des habitudes moyennes. Je n'a'oudhu billah. Ça, c'est un signe de qiyama, quand la haya, quand la pudeur va quitter les cœurs. Et regardez, ça c'est une petite anecdote, pour les jeunes surtout, tout le monde connaît Diams. Qui ne connaît pas Diams ici? Tout le monde connaît Diams. Cette chanteuse, rappeuse française, d'accord? Elle avait reçu un prix concours, je ne sais quoi, il y a un an. Elle s'est convertie à l'islam. La rappeuse la plus célèbre de toute la France, de tout le monde francophone, et une des plus connues dans l'Europe, il y a quelques semaines, elle a lu le shahad. Elle a accepté l'islam. Et dans, je ne vais pas citer le nom de magazine, mais dans des magazines très sérieux, comme Paris Match ou autre chose, il y a des photos d'elle avec le châle, elle se couvre les cheveux. Regardez quelqu'un, et là, moi, je n'écoute pas la musique, hein, mais j'ai vu le reportage sur Internet, elle a sorti un dernier, comment on appelle ça, une dernière chanson, un tube comme on dit, ça s'appelle SOS. Et j'ai écouté l'extrait, parce que les paroles sont ajib. Elle explique dans ce clip que j'ai tout connu. J'ai connu la richesse, j'ai connu la gloire, j'ai connu le succès, mais dans mon cœur, je n'ai jamais connu la tranquillité. C'est exactement ce qu'on va dire dans les bayans. Que le succès, ce n'est ni dans le bonheur, ni dans la fortune, ni dans l'honneur, ni dans telle chose, ni dans telle chose. Celui qui a la foi, le iman, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, le itminan, la tranquillité, l'apaisement, la joie de le cœur vient avec la pensée d'Allah. Ça ne vient pas avec les biens. Sinon, dites-moi pourquoi il y a telle chanteuse, on ne citera pas les noms, on va dire que oui, ça connaît toute bonne nommée chanteuse. Non, c'est pas ça. Mais telle chanteuse, elle a pété un câble l'année dernière, elle se rase la tête. Elle prend la drogue, Britney Spears, pour citer qu'elle. Elle a tout. Ben, Lina a l'argent, Lina a la gloire, Lina a tous les hommes qu'elle veut sous sa main. Elle est riche, mais elle n'est pas heureuse. Ça, c'est une réalité. On n'est pas en train de parler de dunia, là. C'est la femme, peut-être, qui était la plus riche, la plus célèbre en Europe, peut-être dans le monde. Mais elle n'a pas la tranquillité dans le cœur. Elle ne connaît pas une seconde de tamanina, de tranquillité que le mu'min il a dans la masjid. Elle ne connaît pas c'est quoi, ça. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rasé sa tête, elle prend la drogue, je sais pas. Un grand footballeur comme Maradona. Qu'est-ce qu'il a besoin d'encore, lui? À son époque, hein, quand il était joueur. Et, je ne sais pas, c'est des millions de dollars par semaine. Il a tout. Il lève le petit doigt, il a tout ce qu'il veut. Même s'il dépense 100 000 euros par jour, il n'a encore l'argent jusqu'à la mort. Pourquoi il va prendre? Il s'est drogué et tout. Parce que vous pouvez être aussi célèbre, aussi adulé, aussi riche. Vous n'avez pas la ilaha illallah dans votre cœur. Vous n'avez pas l'amour d'Allah dans votre cœur, vous ne serez jamais heureux. Ça qu'on comprenne bien. Et le musulman doit voir ces choses-là avec les yeux du iman. Si cette chanteuse Diams vient vers le din, c'est qu'elle a compris que c'est là-dedans qu'elle a le succès. Et on comprend que la hidayah, mes chers frères, c'est dans les mains d'Allah. Même si des gens ils vont dire que l'islam est une religion comme ça, des débats, des articles, des journaux, ils vont tout faire pour casser l'islam. Ça, ce n'est pas leur religion, ça. Ça, c'est din d'Allah. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بلا 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 débat télévisé que l'islam religion archaïque c'est comme si c'est comme ça faut faire attention là ça c'est pas votre dîn vous c'est pas vous qui allez casser le dîn d'Allah. Allah il dépose il peut faire souffler le vent de hidayat avec ou sans l'intermédiaire. Allah Ta'ala donne tawfiq mes chers frères de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Nous demandons à Allah de renforcer iman dans notre cœur. Que de jour après jour, notre iman en Allah, notre amour pour Allah augmente. Et qu'Allah nous donne la possibilité de transmettre ce iman à nos enfants. Qu'Allah protège nos enfants contre les fitnas, contre les sources de corruption, de péché de ce dunya. Que nos enfants deviennent des adultes responsables, qui ont l'amour et la crainte d'Allah dans leur cœur, et qui un jour deviennent qurratu aynina, la fraîcheur de nos yeux. Que moi, là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, qu'un jour, j'ai 60, 70 ans, hein, je deviens, comment dire, bakoko, je deviens. Comme ça, il me dit, devant un vieux monsieur, je vois mes enfants, il y a l'âme qui coule dans mes yeux. Pourquoi? Je suis fier. Mon fils, il a la crainte d'Allah. Il a réussi dans le dunya. Mais c'est un enfant qui vit pour Allah. C'est un jeune ou un adulte qui vit pour Allah. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un enfant peut donner à ses parents. Parce que le prophète m'a dit également que lorsqu'un homme meurt, il n'y a plus rien pour lui, il n'y a plus d'action. Sauf certaines choses. Parmi ces choses, وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Si quand je meurs, mon fils est pieux, il va faire doigt pour moi, ses actions qu'il accomplit, j'aurai une part. Parce que c'est par mon éducation, bidnillah, qui est arrivé à ce stade. Donc que les parents comprennent bien, il faut arrêter de tout donner à leurs enfants, les jouets, je ne sais pas, l'argent et tout, ne pas croire que c'est dans le dunya que mon fils va, me sera profitable. Qu'un jour je suis vieux, je me donne une petite retraite, 300-400 euros, mon enfant est devenu docteur, il va me donner 1000 euros, je vais être heureux. Oui, c'est vrai, je vais avoir un peu plus d'argent. Mais si mon enfant a din, je vais être heureux dans ce monde et je vais être heureux jusqu'à quand je serai de le qabal de l'au-delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam alayhi wa sallam. On a dépassé beaucoup le temps, mais à partir tous les deux lundis, on fait 20 minutes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Et les jeunes là de Saint-Clotilde, ceux qui ont 15 et 25 ans, n'oubliez pas de vous inscrire avec Moli Hamzé. Il y a le YADJ 2009. Comme il y a eu le YADJ l'année dernière, le rendez-vous des jeunes Saint-Pierre sur 3 jours, le dernier week-end de ses vacances. N'oubliez pas, ceux qui ont 15 et 25 ans, contactez Hafez Ali Hamzé. Et pour vous inscrire, il n'y a pas beaucoup de places. Saint-Clotilde, il y a 20. Nous, Moufia, on a 10. Vous avez la chance, vous avez 20. Mais les places sont limitées. Ça, c'est un événement important où il y a des ulama qui sont là pour parler aux jeunes, d'une manière que les jeunes, il n'y a plus de barrière entre eux et les ulama. Donc, c'est le dernier week-end des vacances du mois d'octobre. Renseignez-vous auprès du directeur et ceux qui sont de la tranche d'âge qui s'inscrivent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Jazakallah.